Les cours du Collège de France, psychologie cognitive expérimentale, Stanislas Dehaene.
On va donc continuer notre exploration de la perception des graphiques, de données, des graphiques mathématiques. Aujourd'hui, on va vraiment rentrer dans le cerveau d'une personne qui regarde un graphique. Ça nous arrive très souvent. Et essayer de comprendre qu'est-ce qui s'y passe, non seulement quand on perçoit des graphiques simples, mais on va aller progressivement vers cette idée de grammaire de graphique dans la deuxième partie du cours. Alors, la semaine dernière, j'avais déjà commencé à évoquer cet aspect de recyclage des graphiques, cette idée que lorsque nous percevons un graphique comme celui du milieu, par exemple ici, même s'il n'y a que peut-être 5 points, nous percevons la tendance d'un graphique, c'est peut-être le plus important, la ligne droite derrière les points ici qui représentent les données, nous le percevons peut-être avec les mêmes ressources que celles qui nous permettent de percevoir l'orientation d'un objet. Ici, si on regarde une fourchette, notre système visuel, sans qu'on en ait conscience d'ailleurs, calcule automatiquement l'axe principal de l'objet, la direction de l'objet dans l'espace. Et notre hypothèse, c'est que peut-être nous recyclons ce talent qui existe depuis sans doute des millions d'années, qui est présent chez tous les primates et sans doute beaucoup d'autres espèces également, de comprendre l'orientation des objets du monde extérieur. Alors, ça fait plusieurs prédictions. On a déjà regardé certaines d'entre elles. Je vais juste vous rappeler qu'une des prédictions non triviales, c'est que ce qui est perçu, ce n'est pas vraiment la droite de régression classique, ce qu'on appelle ordinary least squares, les moindres carrés ordinaires. C'est l'axe principal, ce n'est pas la même chose. Ça correspond en statistique à ce qu'on appelle la régression de Deming, une droite qui minimise la distance perpendiculaire au point donné et non pas la droite qui minimise la distance verticale, les moindres carrés verticaux qui sont ce qu'il faut faire normalement si la variance sur les données est uniquement sur la variable dépendante qui est en Y et pas sur la variable indépendante qui est en X. Voilà. Donc on avait introduit cette nuance, ça peut vous paraître un point minuscule mais ça permet de tester cette idée de recyclage neuronal, puisque le modèle de l'axe principal fait des prédictions légèrement différentes de ce que les sujets devraient réellement faire, étant donné la manière dont on a généré les données sur les graphes. Alors, on avait vu plusieurs tâches, et notamment cette tâche d'ajustement d'un point, où on demande au sujet de placer un point sur l'axe vertical, on lui impose l'axe des X, et on lui dit ajuste verticalement pour que ça tombe dans la direction la plus probable, étant donné les données à gauche. Et on avait vu que lorsque les sujets font ça, la pente qui est estimée, on avait aussi d'autres expériences où on estime la pente, on fait ajuster la pente des données, la pente qui est estimée par les sujets correspond à la prédiction du modèle de Deming, autrement dit du modèle d'axe principal. Toutes ces pentes devraient être indépendantes du niveau de bruit. C'est l'intérêt des moindres carrés habituels, c'est que c'est une estimation non biaisée de la pente, quel que soit le niveau de bruit. Ça n'est pas le cas de l'axe principal, qui est biaisé. Et vous voyez ici que plus il y a de bruit, plus les sujets surestiment la pente par rapport à ce qui devrait être la régression traditionnelle. Et c'est la même chose avec le nombre de points. Il y a également une influence du nombre de points qui ne devrait pas être là, ça ne devrait pas être biaisé si jamais les sujets faisaient la régression habituelle. Donc c'est la première indication que les sujets utilisent vraiment l'axe principal. Et lorsqu'on a fait ce travail avec Lorenzo Ciccione, on pensait être les premiers à tester cette question. On s'est aperçu par la suite que ça n'était pas le cas et que d'autres chercheurs avaient trouvé la même chose un peu plus tôt avec une méthode qui est, à mon avis, un peu moins rigoureuse peut-être, mais qui demande de tracer à la main la courbe la plus probable pour qu'il passe à travers les points. Donc on peut demander ça à des sujets, vous voyez, on leur montre des points ici, et puis avec la souris, les sujets dessinent ce qui leur paraît la courbe qui passe sous les données. Et lorsque les chercheurs avaient fait ce travail, ils avaient comparé la droite qui était produite par les sujets avec l'axe principal, et ils ont trouvé, comme nous, que c'est plutôt l'axe principal qui prédit les données. Voilà. Donc ici, on voit un exemple d'un sujet qui a tracé la droite, je crois que c'est celle qui est en pointillé ici, et vous voyez qu'elle est plus proche de l'axe principal en orange. Ce sont des nuances, mais enfin, ce sont des nuances importantes. Voilà, donc je reprends avec nos collègues qui sont sur Zoom. Nous avions ici vu que d'autres chercheurs trouvaient la même chose que nous, c'est-à-dire un léger biais en faveur de l'axe principal plutôt que l'axe de régression traditionnel. Leur manip est pas aussi exhaustive que la nôtre parce qu'ils avaient uniquement 4 jeux de données possibles, vous voyez, 4 nuages de points que les sujets devaient estimer en traçant. et on voit leur tracé moyen en dessous. L'analyse est aussi un petit peu bizarre. Les données des sujets sont lissées avec ce qu'on appelle des spleens, et ensuite on soustrait la droite de régression et on voit que ça colle plus avec l'axe principal qu'avec la droite de régression traditionnelle. Voilà. On regarde les données de façon un peu plus indirecte, je dirais, que ce qu'on a fait nous, mais la conclusion est exactement la même. Voilà. Alors, il y a d'autres biais qui sont aussi compatibles, même si ça n'a pas été dit dans la littérature, avec cette idée de recyclage neuronal. Et il y en a un que j'ai trouvé assez étonnant. Vous regardez ces deux graphes, là, lequel vous paraît indiquer une plus grande corrélation entre l'axe des X et l'axe des Y, entre la variable en X et la variable en Y. Et je pense que tout le monde est d'accord que la corrélation paraît plus forte à gauche qu'à droite. Et pourtant, c'est exactement la même. Voilà. La seule différence, c'est la manière dont on a utilisé l'échelle. Et c'est bon à savoir, n'est-ce pas? C'est astucieux, vous pouvez mettre une échelle un petit peu plus grande et les données paraissent plus corrélées. Voilà. Ça peut servir. Alors, pourquoi c'est comme ça? C'est un truc assez mystérieux. Alors, le papier qui le rapporte donc demande de juger non pas la pente, comme on l'a fait jusqu'à présent, mais la force de la corrélation, le coefficient de corrélation, si vous voulez. À quel point il y a une relation forte entre les données en X et en Y. Et il y a plusieurs choses à expliquer. Il y a deux résultats qui sont intéressants ici. Le premier, vous voyez, c'est que la courbe n'est pas linéaire. Les jugements subjectifs de corrélation ne sont pas linéaires en fonction du vrai coefficient de corrélation. Il y a quelque chose à expliquer là, il y a une forme particulière. Et puis deuxièmement, à l'intérieur de cette forme, vous voyez que la manipulation de l'étroitesse, si on veut, des axes par rapport au graphique, affecte les données. Ce n'est pas, une expérience extrêmement rigoureuse, mais vous voyez qu'il y a un ordre sur ces points ici, et les sujets, comme vous l'avez fait, rapportent une corrélation subjective plus importante lorsque les axes sont plus étendus et donc que les données sont moins étroitement ajustées, comme ici à droite. D'accord ? Donc on perçoit tous une corrélation plus grande ici. Alors, ces résultats sont étendus et répliqués dans un grand article de Rensick et collaborateurs, qui trouvent vraiment une régularité phénoménale. Vous voyez ici, c'est pas parce qu'on fait un jugement subjectif qu'on trouve pas des résultats très forts en psychologie cognitive. Et ici, il y a vraiment une courbe précise à expliquer de jugement subjectif de corrélation en fonction de la corrélation physique réelle, le coefficient R classique. Alors, Rensick suggère deux choses. La première chose, il suggère que, comme on l'a dit, hein, le nuage de points de données est traité comme un objet. Les sujets passent du nuage de points à une estimation de la densité de probabilité, ce qu'on appelle Probability Density Function, PDF ici, et ils ont transformé donc cet assemblage de points en un seul objet, qui est comme une ellipse, évidemment, dans le cas de la régression traditionnelle, et ils font ça quelle que soit la forme, la taille, la couleur des points, ils testent ça dans cet article. Il y a vraiment cette capacité de se focaliser sur les coordonnées du centre des points et ensuite de les traiter comme une densité de probabilité. C'est ce qu'il faut faire, évidemment. Mais deuxièmement, donc, les sujets jugent la forme de cet objet, de la densité de probabilité, et ils évaluent sa taille et sa largeur relative. Et c'est la largeur par rapport à la longueur qui est un indice de la force de la corrélation. Mais Cleveland, dans l'article que je citais dans la diapo précédente, fait une observation supplémentaire. La courbe a l'air d'être cette forme 1 moins racine de 1 moins R2. Et pourquoi il pense à cette forme-là? Parce qu'il a en tête que la surface de l'ellipsoïde qui est parcourue par les données a cette formule pi sur 4 racine de 1 moins R2. Autrement dit, il est inversement relié au jugement des sujets. Alors, ça donne une hypothèse très précise sur ce qui pourrait se passer. Les sujets pourraient regarder la surface prise par les données par rapport aux axes qui sont affichés sur le graphique. Voyez. Ici, si je vous montre ce graphique et vous calculez le rectangle dans lequel ce graphique est inséré, eh bien, plus la surface est petite, plus la corrélation est grande, évidemment. Et à l'extrême, si les données sont parfaitement alignées sur une droite, la surface est 0, et donc la corrélation est la plus élevée, la corrélation est de 1. Donc c'est ce que cette formule va donner, 1 moins la surface, en gros, hein, si on oublie la constante ici. Voilà. Et donc, si les données ne montrent aucune corrélation, eh bien c'est là qu'il va y avoir la surface maximale à l'intérieur du rectangle de données, toujours à ce coefficient pi sur 4 près, hein, on est à l'intérieur du carré, on remplit le carré de données de façon la plus large possible. Et si le carré est entièrement rempli, ça veut dire qu'il n'y a pas de corrélation entre les données en X et les données en Y. Et puis voilà, ça explique le biais des sujets. Si je mets une plus petite surface de données simplement en élargissant les axes, de sorte que les données occupent plutôt le centre de mon graphique, eh bien c'est une autre manière de réduire la surface. Et les sujets se font avoir en quelque sorte et confondent ça avec la corrélation. On confond le regroupement des données avec la corrélation en X et en Y, en partie en tout cas. Donc moi j'aime bien cette hypothèse parce qu'elle nous montre clairement qu'est-ce qui peut se passer. On recycle l'analyse des formes, on commence par transformer le nuage de points en une forme, et ensuite on analyse cette forme. Et non seulement ça peut expliquer ce qui se passe avec les régressions linéaires, mais il faudrait qu'on continue ce travail, parce que ça pourrait aussi expliquer comment on détecte n'importe quelle organisation dans les données, en fait. Notre œil serait habile à détecter que les données sont regroupées de façon non aléatoire à l'intérieur de l'espace des données possibles. On vous fournit un cadre XY, mais votre œil détecte que les données sont concentrées dans une partie de l'espace des données possibles. Et après tout, c'est très important de détecter non seulement que la moyenne est déplacée, par exemple qu'il y a une corrélation en X et en Y, ou pourquoi pas qu'il y a une relation beaucoup plus complexe entre X et Y. Cette stratégie permettrait de détecter essentiellement n'importe quelle relation systématique entre les données en X et les données en Y. Et je mets en lien cet article purement psychologique avec un autre article qui est paru dans Science en 2011, qui est extrêmement intéressant, mais pour les statisticiens, c'est pas de la psychologie, parce qu'il propose une nouvelle mesure possible de corrélation qui s'appliquerait à n'importe quel jeu de données, qu'elle soit linéaire ou pas. Le problème du coefficient R classique, c'est que ça ne marche bien que si les données sont linéaires et qu'il y a du bruit sur une courbe linéaire. Mais ici, il nous propose une extension du coefficient de corrélation qui ressemble exactement à ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qui est capable de détecter la concentration des données, avec peut-être un peu de bruit autour, quelle que soit la forme de la courbe sous-jacente. Même si ce n'est pas une courbe, d'ailleurs, par exemple, si les données sont une ellipse, ça n'est pas une fonction à proprement parler, puisqu'en X, il peut y avoir une valeur en X et plusieurs valeurs en Y. Et il peut y avoir toutes sortes de relations, par exemple la non-coexistence ici. Ce n'est pas possible d'avoir des données où X est grand et Y est grand en même temps, mais tout le reste est possible. Nous détectons ces patterns-là, et dans cet article, il propose des critères pour dire quelle est la bonne mesure d'une sorte d'extension de la corrélation à n'importe quelle fonction ou même relation entre X et Y. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais s'il y a des statisticiens parmi vous, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Je pense qu'on devrait l'utiliser. C'est une sorte de simulation presque, peut-être de ce que nous faisons avec nos yeux lorsque nous regardons un graphique de données. Ce qu'il propose, c'est de regarder l'information mutuelle entre les données en X et les données en Y, tout en faisant cela à n'importe quelle échelle. Voyez. Donc ici, il divise le graphe en carrés d'échelles différentes et il regarde quand est-ce qu'on atteint l'information mutuelle la plus élevée entre l'axe des X et l'axe des Y. Et c'est très schématiquement, c'est ça qui conduit à cette mesure de corrélation. Alors il teste leur mesure de corrélation non linéaire dans plein de jeux de données et montre que ça correspond très étroitement au coefficient R traditionnel lorsque les données sont linéaires, mais que ça généralise à toutes sortes de courbes non linéaires, des sinusoïdes sur lesquels on a rajouté du bruit, des paraboles, etc. Donc je me demande si on n'a pas là une sorte de formule qui est intéressante pour les statisticiens, mais qui en fait reproduit ce que notre cerveau fait lorsqu'il perçoit quelque chose de non aléatoire dans les données, quelle que soit la relation. On va y revenir dans un instant, parce que je vais vous parler de la manière dont notre cerveau est capable de détecter des fonctions non linéaires et pas seulement linéaires. Mais donc tout le travail reste à faire. Est-ce que cette proposition ici, qui s'appelle le MIC, Maximal Information Coefficient, est-ce que c'est un bon prédicteur de la perception d'une corrélation ou d'une relation dans les données pour les sujets humains? Il y a une proposition là qu'on devrait tester au laboratoire. Alors, je profite pour dire que tout ce travail est fait très étroitement avec Lorenzo Ciccione, dont je vous ai déjà parlé, qui a fait sa thèse là-dessus. Et on a testé également la prédiction suivante de cette idée du modèle du recyclage neuronal, qui est que ce doit être les mêmes régions du cerveau qui sont impliquées dans la perception des graphiques et qui sont impliquées dans l'extraction de l'axe principal des objets, la perception des objets et leur orientation. D'accord. Donc ça, c'est une prédiction très simple. On va aller voir dans le cerveau avec l'imagerie cérébrale qu'est-ce qui s'active lorsque on perçoit un graphe et est-ce que ça se recouvre avec les régions qui sont activées dans la perception de l'axe des objets. Alors il faut savoir qu'on a regardé dans la littérature, il n'y a pas un article sur les bases cérébrales de la perception des graphiques. C'est un domaine complètement inexploré. C'est vraiment intéressant de voir que les sciences cognitives se concentrent parfois sur des domaines où il y a des centaines d'expériences et puis il y a des domaines entiers qui sont laissés ouverts comme ça. Ici, donc, on a fait ce type de tâche, on a présenté un nuage de points, on a demandé au sujet, comme je vous l'ai déjà expliqué, de juger si ça monte ou si ça descend, donc de juger la forme du graphe. Et on avait plusieurs buts, hein, donc d'identifier les aires cérébrales impliquées, de tester le recouvrement avec la perception des objets et l'orientation des objets, et aussi de tester le recouvrement avec des tâches mathématiques sans rapport direct avec la perception des graphes. Et enfin, dernière chose, de tester si c'est bien le t-test. Je vous avais dit que c'était dans le domaine du comportement des sujets. Les sujets ont l'air de faire une sorte de t-test mental pour juger la corrélation ici, de la pente plutôt. Est-ce que ça monte ou est-ce que ça descend? Est-ce que c'est le cas aussi en IRM? Alors voilà le dessin expérimental qu'on a adopté. En à peu près une heure et quart d'IRM à neurospin, à 3 Tesla, les sujets faisaient toute une série de tâches. La première tâche, et la plus importante, c'était donc de voir un graphique, de décider s'il monte ou s'il descend dans un certain nombre de blocs, mais dans d'autres blocs, avec exactement le même stimulus, de décider si les points comprennent plus de triangles ou plus de losanges. D'accord. Ça, c'est un point important, mais je pense que vous le savez maintenant, on ne peut pas juste faire l'imagerie d'une tâche donnée, regarder tout ce qui s'active lorsqu'on perçoit un graphique. La moitié du cerveau est activée. Ce qu'il faut, c'est faire des soustractions qui permettent d'isoler les étapes cognitives qui nous intéressent. Et donc là, on a le même stimulus, on a le même type de réponse, je clique à droite ou je clique à gauche, il y a juste les étapes intermédiaires qui diffèrent, c'est faire attention à l'orientation des données ou faire attention à la forme des symboles qui sont utilisés pour les mêmes données. On avait ensuite une tâche supplémentaire dont je parlerai peu, mais qui visait à voir quels étaient les paramètres qui modulaient l'activation liée au graphique, et notamment le fameux t-test. Hein. Donc on faisait varier le nombre de points, la pente, comme je vous l'ai montré dans les expériences comportementales la semaine dernière. On avait enfin, et c'est peut-être le plus important, la perception des objets. Donc dans un bloc qui n'avait apparemment aucun rapport pour les sujets, qui était fait après les graphiques, pour éviter que lorsqu'ils voient des graphiques, les sujets pensent à ça comme des objets, hein, on présentait des objets comme un couteau de cuisine ici, et l'objet pouvait tourner plus ou moins, avec le même genre de difficulté, on va le voir, que pour les graphiques, et on leur demandait de dire est-ce que ça s'est tourné vers le haut ou vers le bas, et on leur demandait aussi, pour comparer, on leur demandait si c'était un ustensile de cuisine ou pas. Donc la soustraction des deux isole le jugement de l'orientation des objets. Et puis on avait enfin ce qu'on appelle un localizer, une tâche de quelques minutes qu'on a mis au point depuis bien longtemps avec Philippe Pinel il y a quelques années, où on est capable d'isoler le réseau cérébral qui s'active lorsqu'on fait des mathématiques. On présente des phrases et certaines de ces phrases parlent de mathématiques, par exemple calculer 9-4, et d'autres parlent de tout à fait autre chose. Par exemple, on peut facilement trouver un taxi à Paris, vous devez juste écouter, et lorsque vous écoutez ces phrases et vous faites les tâches correspondantes, vous avez toute une activation liée aux mathématiques qui se trouve très facilement chez n'importe quel sujet, hein, qui montre un réseau caractéristique. Donc la question, est-ce que ça se recouvre avec les aires qui sont impliquées dans les graphiques? Alors, sur le plan comportemental, c'est toujours important d'avoir une bonne tâche comportementale. Je vous ai déjà montré cette courbe donc, de jugement, ça monte ou ça descend en fonction du t-test de la régression. On retrouve les mêmes données qu'avant. On a choisi des essais plutôt faciles. Ici, là, vous voyez que les sujets n'ont pas de mal à dire que ça monte quand ça monte et à dire que ça descend quand ça descend, et la tâche de forme était plutôt plus difficile. Ici, c'est la proportion de losange versus de triangle qui est variée, et la tâche est un peu plus difficile, ce qui est mieux parce qu'on surcontrôle. On va enlever de notre soustraction toutes les tâches, toutes les régions cérébrales plutôt qui sont liées à la difficulté de la tâche, et il va rester ce qui est lié à la perception des graphiques. Voilà. On a répliqué également le fait que ces données dépendent du t-test, quels que soient les mi-champs, ça c'est nouveau, que le graphe soit présenté à droite ou à gauche, ça ne change rien pour la perception des sujets. Alors voilà donc cette première image de la perception des graphiques. on a soustrait l'activation évoquée par l'estimation des formes, losange ou triangle. Il reste ces activations qui sont en jaune ici et qui nous montrent au moins trois régions caractéristiques. Celle-ci est plutôt bilatérale, on ne voit pas très bien ici, elle n'est pas très bien projetée, mais on la voit sur les coupes ici. Donc vous avez des régions de la, ce qu'on appelle la région temporale inférieure postérieure ici, la partie antérieure du sillon intrapariétal, particulièrement à droite, et puis le cortex rétrosplénial. Alors, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais pour nous, c'était très intéressant et compatible avec ce qu'on attendait. Hein. La région intrapariétale est activée dans toutes sortes de tâches mathématiques, tout le temps, et notamment numériques, spatiales. Je vous en ai parlé la semaine dernière. Le cortex rétrosplénial est impliqué dans la représentation de l'espace. On le trouve d'ailleurs dans d'autres manips où vous réfléchissez à la géographie, aux cartes, au jugement, est-ce qu'une ville est plus loin qu'une autre, est plus à l'est qu'une autre. Et puis, il y a cette fameuse région ventrale, LOC, et là, c'est très intéressant parce que vous voyez que si je vous montre maintenant la carte d'activation pour l'orientation des objets, c'est cette région dans la partie ventrale du cortex temporal, à sa jonction avec le lobe occipital ici, qui est fortement activé et à droite dans le jugement de l'orientation des objets, avec un petit peu d'activation pariétale également ici. Oui. Donc, on a l'air d'avoir un recouvrement assez joli entre la perception de l'orientation des objets dans cette région temporale, temporo-occipitale ventrale et la perception de l'orientation des graphes. Je vous le remontre ici sous une autre forme qui est coupe par coupe et on peut donc vraiment regarder de près. Vous avez cette région donc postérieure inférotemporale qui se recouvre vraiment assez fortement ici. C'est pas tout à fait la même chose pour l'arithmétique, et donc voilà la troisième tâche que faisaient les sujets. Ils faisaient des jugements de phrases arithmétiques. Voilà ces régions qui s'activent pour les mathématiques en général, et particulièrement pour le calcul. Donc on voit très très bien le sillon intrapariétal, et il y a un recouvrement avec cette partie très antérieure du sillon intrapariétal ici, mais c'est pas énorme, c'est un petit recouvrement. Et puis, au niveau ventral, par contre, vous voyez que la région qui est inférotemporale, là, n'est pas vraiment la même. On trouve des activations dans la région temporale inférieure, mais ce n'est pas exactement au même endroit, c'est un peu plus bas et un petit peu plus antérieur. Voilà. Donc je l'ai indiqué par une flèche ici. Donc on est encore en train d'essayer de comprendre tout ça. Il n'y a pas non plus d'activation rétrospéniale quand on fait du calcul arithmétique. Donc ça, ça a vraiment quelque chose à voir avec la représentation de l'espace, beaucoup plus qu'avec l'arithmétique. Et c'est activé par les graphes, c'est un nouveau résultat, mais pas tellement par l'arithmétique. Alors, c'est intéressant de comparer avec d'autres travaux pour bien comprendre ce qui se passe ici. Et on a notamment un travail intéressant de Hadfield et collaborateurs avec Mike McCloskey, qui est un chercheur qui travaille remarquablement bien, hein, qui ont utilisé des techniques encore plus subtiles pour identifier les régions qui s'intéressent à l'orientation des objets. Vous voyez qu'ici, on vous montre une cuillère à glace et elle est sous toutes les orientations possibles. Et ça nous permet de juger quelles sont les régions qui codent pour l'orientation. Ils cherchent spécifiquement dans cette région LO, latérale occipitale, essentiellement la même que celle qu'on regarde, et ils trouvent que les activations ont une configuration d'activité plus similaire lorsqu'on ne change pas l'axe principal des objets, parce qu'on se contente de le retourner en miroir le long de son axe principal, c'est la condition OPA ici, alors que si on retourne l'objet sur l'axe vertical, ce qui change complètement son orientation, eh bien on ne trouve pas de recouvrement des activations. C'est ce qu'on appelle une technique de representational similarity, c'est une technique multivariée qui est assez fine, parce qu'elle permet de dire vraiment est-ce que le code neural, tel qu'on est capable de le détecter avec nos voxels d'imagerie cérébrale, hein, est-ce que le code neural se ressemble plus lorsque les objets ont la même orientation dans l'espace que lorsque les objets n'ont pas la même orientation dans l'espace. Et dans cette région LO, l'activation cérébrale se ressemble plus lorsque les objets ont la même orientation. Donc on a l'impression qu'il y a un code neural dans cette région pour l'orientation des objets. C'est un peu plus subtil que la soustraction qu'on a faite nous, qui est « faites attention à l'orientation, ne faites pas attention à l'orientation ouais. ». Ce sont deux méthodes un petit peu différentes qui convergent pour dire que cette région LO ici joue un rôle clé dans la perception de l'orientation des objets. Donc eux n'ont que l'orientation des objets, mais nous, nous avons l'orientation des graphes. Donc je vous remets un petit peu les données ici. Ici, vous avez la définition de la tendance principale d'un graphe linéaire, avec ses activations bilatérales, un petit peu plus à droite. Le jugement d'orientation des objets, très à droite ici, et presque au même endroit, petit peu plus en arrière peut-être dans le cerveau, et puis les jugements arithmétiques, pas tout à fait au même endroit, un peu plus en avant dans le cerveau. Alors, j'ai fait une petite revue de la littérature pour essayer de bien comprendre ce qui se passe dans cette région. Je ne pense pas qu'on comprenne encore tout, mais je trouve qu'il se passe plein de choses passionnantes pour les mathématiques dans cette région. Donc d'abord, voilà l'image qu'on vient de voir du papier de Hatfield et al. Sur le jugement d'orientation des objets. C'est vraiment très réplicable. Cette région joue un rôle clé dans l'orientation des objets, la région qu'on appelle LO, qui est un petit peu en arrière. Voilà. Nous, on trouve quelque chose un poil plus en avant et encore plus en avant pour l'arithmétique ici et les mathématiques. La région qui est activée pour le jugement de l'orientation des objets pourrait correspondre à cette région qu'on appelle FIN ici, Fusiform Imagery Node, FIN, qui est proposée par nos collègues Zhang-Hao Liu et Paolo Bartolomeo dans des articles récents, comme jouant un rôle clé dans l'imagerie mentale. Donc ça, c'est assez intéressant. Lorsque vous faites des jugements mathématiques, il y a des activations qui descendent dans cette région qui est proche du système visuel, même lorsque vous n'avez pas réellement présenté de graphes mathématiques, simplement parce que vous en parlez dans une phrase ou parlez des nombres complexes, etc. Et nos collègues trouvent que cette région est activée dès que vous faites de l'imagerie mentale. Vous évoquez une image mentale sans que l'image soit réellement présente sur l'écran. Et alors nous, en mathématiques, on a trouvé que cette région est très activée par les mathématiques abstraites chez les mathématiciens. Ça, c'est le travail de Marie Amalric, il y a quelques années, dont je vous avais déjà parlé. Donc, les régions en rouge s'activent lorsque vous entendez une phrase de mathématiques qui peut parler de choses très abstraites, mais vous évoquez ces régions dans la voie ventrale. Et encore plus intéressant, la région en jaune, qui est un peu plus en arrière, plus vers le lobe occipital, plus vers les aires visuelles, s'active spécifiquement lorsque les questions portent sur la géométrie. Et donc, vous avez à juger des objets géométriques. Et encore plus intéressant, c'est en orange ici, lorsque les sujets jugent qu'ils ont fait de l'imagerie. On leur demande à chaque essai, pour cette question-là, est-ce que vous avez eu des images mentales? Par exemple, vous avez imaginé le cercle trigonométrique. On vous pose une question sur les nombres complexes, et parce que vous avez bien appris les nombres complexes, vous imaginez le cercle trigonométrique. Eh bien, c'est à ce moment-là, on trouve un surcroît d'activité dans cette région. Toujours un petit peu plus antérieure que celle qui est impliquée dans l'orientation des objets ici. Alors je suis revenu aussi en arrière, parce qu'on avait trouvé dans ce travail des activations qui étaient plus activées chez les mathématiciens que chez les non-mathématiciens pour différentes catégories d'objets visuels. Alors la première qui est facile à comprendre, c'est si je vous montre une formule mathématique, eh bien ceux qui sont mathématiciens ont plus d'activation à la même formule mathématique que ceux qui ne sont pas mathématiciens. Et ça, c'est ce qu'on avait trouvé ici dans cette région un peu ventrale. Ça ressemble un peu à ce qu'on a appelé l'ère de la forme visuelle des mots, c'est juste à côté. De la même manière qu'on est spécialisé pour lire, et vous avez tous appris à lire dans cette salle, vous avez tous développé l'ère de la forme visuelle des mots, et bien ceux qui ont appris à lire les expressions mathématiques ont des activations plus fortes pour les expressions mathématiques dans une région juste un petit peu latérale ici. Et en revenant à cet article, j'avais un peu oublié, on avait aussi trouvé qu'il y a une région qui alors vraiment est identique au LOC, en tout cas en termes de coordonnées, qui est plus activée chez les mathématiciens lorsqu'ils voient des outils, des images d'outils. C'était une des conditions contrôle de notre manip, mais on a trouvé que c'était le cas là. Alors peut-être parce que précisément, cette région se recouvre avec l'activation pour les graphiques, qu'on a réutilisé cette région pour les graphiques. Nos outils avaient une orientation dans l'espace, c'était même un trait tout à fait saillant de cette image. Et donc je me demande si on n'a pas déjà observé que les mathématiciens ont amplifié cette représentation des graphiques et ont une activation supplémentaire dans cette région. Ils sont plus sensibles à l'orientation, peut-être parce qu'ils ont énormément entraîné leur système à percevoir des graphiques, des courbes, et cette région joue un rôle clé dans l'orientation dans l'espace. Donc voilà où on en est. Il n'y a pas beaucoup de données. On est les premiers à avoir fait l'imagerie des graphiques. Il n'y a pas beaucoup de données sur les mathématiciens non plus, très honnêtement. On a vraiment l'impression qu'il y a une sorte de zone qui intervient de façon clé, là, mais avec sans doute plusieurs régions dans le même site. Peut-être ce que Damasio appelait une zone de convergence pour les mathématiques, c'est-à-dire un endroit où les concepts mathématiques progressivement se regroupent. La partie la plus arrière intervient vraiment dans la perception. On présente une image, et si vous percevez l'orientation de cette image, vous activez cette région, donc LO. Mais quand on va un petit peu plus en avant, il y a peut-être donc une hiérarchie de régions qui sont de plus en plus abstraites jusqu'à aller vers des concepts mathématiques relativement abstraits. Et cette région est évocable de façon top-down, elle est activable de façon top-down lorsque vous faites de l'imagerie mentale. Alors, tout ceci est assez flou parce que ce sont des expériences différentes qu'on regroupe ici, ce sont des sujets différents, ce sont des analyses de groupe avec souvent une vingtaine de sujets, donc les images sont floues. Donc, un objectif majeur pour le laboratoire dans les années à venir consiste à obtenir ces images chez une personne donnée, hein, avec une très haute résolution à 7 Tesla, de manière à pouvoir distinguer ce qui est lié à l'apprentissage, ce qui est lié aux mathématiques, ce qui est lié à la perception des objets, est-ce que c'est vraiment exactement les mêmes sites ou pas. Voilà où on en est. Alors, je reviens en arrière un tout petit peu sur cette expérience aussi pour vous dire qu'on a trouvé que la difficulté des graphes module ces activations et le site majeur de modulation ici, c'est le sillon intrapariétal ici. Vous voyez qu'il y a aussi des activations dans le cortex frontal, dans l'insula antérieure. C'est assez classique d'avoir un réseau de la difficulté. Et donc ici, les régions en bleu sont celles qui sont négativement corrélées avec la valeur de T, c'est-à-dire que plus le T est faible, plus c'est difficile de juger la pente du graphe, est-ce que ça monte ou est-ce que ça descend, et ce réseau est modulé par la difficulté ici. Et je ne rentre pas dans le détail, mais exactement comme pour le comportement, on a trouvé que ce réseau est modulé par la valeur de T et pas par la pente, par le nombre de points. Une fois qu'on a mis le test de T, ça résume tous ces effets dans une seule variable, qui est la bonne variable pour expliquer ces activations. Alors, j'essaye de conclure sur cette perception, ces bases neurales de la graphicacy, la perception des graphiques, en vous remontrant cette image donc principale du réseau qui s'active pour la perception des graphes, et avec un modèle possible. Donc, il y a un réseau latéralisé à droite, tout à fait clairement, pour la perception des graphes. C'est une perception spatiale et qui implique plus l'hémisphère droit. Peut-être que la région PITG intervient donc de façon la plus précoce et la plus proche des régions visuelles occipitales pour extraire la forme du graphique, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, l'ellipse, la manière dont les données sont distribuées, la reconstitution d'un objet à partir de la distribution des points, la forme des données, donc l'orientation de l'axe principal, mais peut-être aussi la largeur de cette courbe, ce qui, dans l'article de Rensic, jouerait un rôle clé dans la perception même de l'existence d'une corrélation. Voilà. Mais on a ce point d'interrogation, il y a sans doute plusieurs régions. Dans cette région, certaines sont plus développées chez les mathématiciens. Et l'idée, donc, c'est que cette région pourrait intervenir en premier et ensuite envoyer ces données au sillon intrapariétal qui accumulerait les données alors réellement mathématiques sur le t-test, la pente, la valeur de la corrélation. Donc on aurait une distinction entre des régions qui analysent la forme et puis des régions qui extraient de cette forme des conclusions mathématiques, des conclusions sur la nature des données. Voilà. Et peut-être que le cortex rétrospinal, lui, intervient encore à une étape ultérieure, mais tout ceci est spéculatif, hein, pour faire une synthèse hiérarchique de la nature des différents composants du graphique. Les régions du cortex rétrospinal sont vraiment des régions, de même que le précuneus ici, hein, et le cuneus, sont des régions qui sont impliquées souvent dans la perception d'histoire, dans la perception du contexte, dans la perception d'un texte plutôt que d'une phrase isolée. Donc ce sont des régions qui ont l'air très intégratives et qui pourraient intervenir pour intégrer l'ensemble de la connaissance finalement du graphe. Donc tout ceci fait l'objet d'un article qui est soumis actuellement et qui est le premier à avoir exploré les bases neurales des graphiques. Alors cette conclusion, qui a peut-être une sorte de synthèse hiérarchique, m'amène au sujet du cours d'aujourd'hui à proprement parler, qui est la grammaire des courbes et des graphiques. Cette idée qu'on ne s'arrête pas à la perception de traits très élémentaires, mais qu'on extrait toute une grammaire des graphiques. Alors, je vais vous expliquer ça très brièvement. Jusqu'à présent, je vous ai parlé de graphiques absolument élémentaires, dans lesquels il y a des axes, ou peut-être parfois pas d'axes du tout, et puis quelques points de données. Mais les vrais graphiques ressemblent plutôt à celui-ci, que je vous avais montré dans le premier cours, dans le livre de Tufte. C'est-à-dire une situation bien plus intéressante, bien plus compliquée, et où votre œil analyse de façon sérielle des relations assez élaborées entre les différents éléments ici. Il y a par exemple des points qui sont spéciaux, ces fameux points qui sont des maxima ici, mais aussi peut-être ceux-là qui attirent votre attention, qui sont des outliers, qui n'ont pas l'air de tomber sur la bonne courbe. Il y a plusieurs courbes. Les courbes sont composites. Vous voyez qu'ici, elles ne sont pas du tout linéaires. Le Tufte nous aide en mettant des courbes avec des pointillés. Ici, mais elles ne sont pas droites du tout. Ce sont des paraboles ou des fonctions plus compliquées. Et nous sommes capables de voir qu'il y a plusieurs groupes qui correspondent évidemment au tableau périodique de Mendeleïev, hein, et qu'on voit ici beaucoup plus qu'une simple tendance linéaire. Donc on peut se demander s'il n'y a pas une sorte de langage des fonctions. Ici, vous êtes capable de dire qu'il y a une série successive de fonctions quadratiques, quelque chose comme ça. Il y a une formule qui résume ce que vous voyez dans ce graphe. Donc une sorte de langage des graphiques. Alors, je fais la connexion avec ce dont je vous avais parlé l'année dernière, c'est-à-dire l'idée qu'il y a un langage de la géométrie. Qu'en fait, c'est une caractéristique de l'espèce humaine de produire dans tous les domaines des structures enchâssées, récursives, qui fonctionnent comme des langages. Donc, bien entendu, dans le domaine du langage parlé, c'est une idée très ancienne qu'on doit à Noam Chomsky, qu'on ne s'arrête pas à la surface de la phrase, on ne s'arrête pas à la séquence de mots, mais notre cerveau, notre appareil cognitif, reconstruit un arbre. Et donc les joyeux linguistes font un diagramme, on connaît ces diagrammes en forme d'arbre ici, que les linguistes postulent, et avec beaucoup de données, beaucoup d'évidence, hein, comme étant la représentation profonde, la structure profonde derrière la structure superficielle de la phrase qui rentre dans les oreilles. Mais nous avons postulé que c'est la même chose dans le domaine de la géométrie, et je vous ai montré des données l'an dernier. Par exemple, lorsqu'on perçoit cet objet ici, ce biface, eh bien peut-être qu'on perçoit un triangle avec deux lignes de longueur égale qui touchent un cercle. Ouais. Quelque chose d'extrêmement régulier qu'on perçoit très rapidement, un carré de cercle dans cette image de Valcamonica. L'an dernier, je vous avais montré en l'ancienneté de cette représentation géométrique, puisque dès les tout débuts des productions de l'humanité, ce qui est produit, ce ne sont pas des dessins réalistes, ce sont des dessins géométriques. Alors, cette idée qu'il y a une représentation récursive, elle a été proposée par beaucoup de personnes. Il y a un article très célèbre de Hauser, Chomsky et Fichte qui spécule que la capacité d'enchasser par des relations récursives des relations binaires formée par cette opération de merge ici, c'est la clé du langage, c'est la fonction centrale qui permet d'avoir des représentations linguistiques. Mettez comme ces Fichte a ensuite étendu cette idée en supposant que ces représentations sous forme d'arbres sont omniprésentes en langage, en musique, en mathématiques, en sciences, dans la production des outils, et qu'il y a une sorte, c'est dans un autre article de Hauser et Watumul, qu'il y a une sorte de faculté générative universelle. Voilà. Et avec mon groupe, on a publié un article récent pour proposer que ce n'est pas une faculté au sens où ce serait une région cérébrale qui crée la récursion, c'est pas l'aire de Broca qui fait tout le travail, quel que soit le langage du cerveau, mais il y a plusieurs langages du cerveau. Donc cet article de synthèse ici, aussi un peu spéculatif, hein, suggère que nous avons toute une série de réseaux parallèles dans le cerveau qui sont très schématiquement représentés ici, certains qui s'intéressent aux différents niveaux du langage, et même à l'intérieur du langage, il y a plusieurs langages. Il y a des structures phonologiques, des structures syntaxiques et des structures sémantiques, compositionnelles. Mais il y a aussi une compositionnalité des mathématiques, une compositionnalité de la musique, des séquences spatiales qui impliquent des réseaux partiellement différents, pas encore très bien cartographiés, et qui sont beaucoup plus dorsaux ici. Et on avait fait l'hypothèse que, oui, il y a une structure d'arbre enchâssée qui est commune à tous ces domaines, mais il y a aussi de grandes distinctions, et peut-être la distinction la plus fondamentale, c'est entre des structures symétriques, les mathématiques, la musique font appel à la répétition, la symétrie, versus des structures asymétriques, qui sont les structures linguistiques, où au contraire, on essaye d'éviter la symétrie, d'éviter la répétition, de compacter le message au maximum. Donc, voilà un petit peu le cadre général, l'idée qu'il y a plusieurs langages dans le cerveau, beaucoup de langages, et que peut-être il y a un langage des graphiques. Et alors, quand je me suis penché sur le cours de cette année, bien sûr, j'avais connaissance de ce livre qui est très célèbre, de Leland Wilkinson, qui s'appelle précisément « The Grammar of Graphics ». Il y a cette hypothèse dans la littérature que les graphiques ne sont pas produits comme des objets plats, mais il y a une structure profonde. Voilà, exactement comme une structure profonde des phrases. Et le livre commence par cette phrase, hein, peu de personnes ont vu les graphiques quantitatifs comme un domaine qui a des règles et une structure grammaticale. Il y a une grammaire. Alors qu'est-ce que propose Leland Wilkinson ? Il faut bien voir que ce n'est pas un article de sciences cognitives, hein. C'est un article d'informatique. Et c'est en fait un des fondateurs des langages récents pour produire des graphiques. Et il présente le problème comme cela. Il dit, on a énormément, à l'époque, hein, 2005, on a énormément de logiciels qui permettent de produire des graphiques avec des camemberts, des régressions, etc. Mais ils n'ont pas le bon langage. Ce sont des boîtes différentes pour produire tel ou tel graphique, alors qu'il faudrait avoir un langage beaucoup plus abstrait pour parler des données et ensuite produire les graphiques correspondants. Alors, ce qu'il propose comme grammaire des graphiques, c'est au minimum l'organisation suivante. D'abord, comprendre comment les variables s'appliquent à des dimensions visuelles. Ça, on en a parlé, c'est l'idée de Bertin depuis déjà un bout de temps. On peut choisir l'axe des X, l'axe des Y, la couleur, la forme, la taille, comme différentes variables pour indiquer différentes dimensions des données. Bon, ensuite, il y a la question de savoir quelle transformation statistique on applique. C'est pas trivial, on va pas souvent indiquer les données brutes, on va indiquer les données moyennes, les données comptées, la distribution, etc. Ensuite, il y a la question de l'échelle, dont on a beaucoup parlé dans le troisième cours. Est-ce qu'on va appliquer une échelle linéaire, une échelle logarithmique, si les variables sont continues ou ordinales, ou bien simplement une échelle catégorique avec des niveaux de couleurs pour différents pays, par exemple. Mais vous voyez que c'est intéressant. L'échelle, par exemple, peut être linéaire, logarithmique, qu'on mette les données sur l'axe des X, sur l'axe des Y, ou même qu'on la mette sous forme d'une échelle de couleurs. On peut avoir une échelle de couleurs qui est logarithmique. Donc ce sont des décisions indépendantes et hiérarchiques, d'après le Language Kitson. Ensuite, il va falloir choisir quel objet géométrique on va utiliser. Est-ce qu'on va mettre des points dans un scatter plot, dans un ensemble de données? Est-ce qu'on va mettre des barres dans un graphique en barres? Est-ce qu'on va mettre des lignes? Est-ce qu'on va mettre des portions d'un camembert? Ce sont des choix qui vont changer radicalement la forme graphique, mais pas la forme profonde. Et la structure profonde va rester la même. C'est juste la surface des choses qui va changer. Et puis, enfin, il va falloir décider quel système de coordonnées on utilise. Est-ce que c'est cartésien en XY? Est-ce que c'est polaire? Etc. Il y a encore une dernière option importante, parce qu'elle va, là encore, changer radicalement la forme des graphiques, c'est est-ce qu'on va utiliser des facettes. C'est le terme qui est utilisé pour mettre ce qu'on appelle des panels, aussi en anglais, des panneaux différents de données. Vous vous souvenez de cette idée de Tufte que ça peut être très intéressant d'avoir la même forme graphique et de la répliquer plusieurs fois avec des jeux de données différents pour s'habituer à une forme graphique et puis pouvoir comparer d'un panneau à l'autre. Donc ici, dans le système de Leland Wilkinson, c'est une décision à la fin de dire certaines données permettent de séparer en panneaux. Voilà. Alors je vous donne un exemple tout de suite parce que ça peut paraître abstrait, hein. Et voilà comment dans le logiciel ggplot2 vous pourriez définir un graphe très élémentaire. Et il faut dire que donc ggplot, beaucoup d'entre vous l'utilisent, c'est the grammar of graphics. C'est directement tiré de l'analyse linguistique, en quelque sorte, de Wilkinson. Alors vous allez définir les variables, vous allez dire j'ai une base de données de voitures avec leur poids et leur miles per gallon, la distance qu'elles peuvent parcourir pour un gallon, pour une unité de mesure de litres d'essence. Hein. Vous allez ensuite choisir des points. Voilà, donc là je décide que ça va être un graphique en points, un scatter plot. Je vais définir des échelles en X et en Y. Je vais définir le système de coordonnées cartésien. Il suffirait que je change cette ligne et ça va devenir un graphique en coordonnées polaires, par exemple. Et puis là, je décide d'appliquer des facettes pour distinguer trois niveaux de cylindrée de la voiture. D'accord. Et ça vous produit ce type de graphique. Et alors, il y a une idée que je voudrais vous proposer, c'est que nous avons effectivement une grammaire des graphiques dans nos ordinateurs pour produire ces graphiques, mais peut-être que nous avons une sorte de grammaire interne, parce que nous sommes capables de comprendre ce type de graphique, nous inversons complètement le procédé et nous inférons les différents niveaux grammaticaux que la personne a utilisés pour générer ce type de graphique. Voilà. Donc, imaginez, vous êtes en train de regarder ce graphique pour la première fois. La première chose que vous voyez, c'est qu'il y a trois fois le même graphe avec la cylindrée qui varie. C'est un premier niveau d'analyse. Ensuite, vous regardez l'axe des X, l'axe des Y, vous voyez qu'il y a deux autres variables, et donc vous remontez à ce niveau de choix des variables qui ont été utilisées. Puis ensuite, vous pouvez analyser les tendances dans chacune de ces graphiques en comprenant que chaque point représente un type de voiture particulier. D'accord ? Donc vous remontez, vous inversez le processus qui a conduit à générer ce graphique. Voilà l'hypothèse que je ferai. Alors, ça veut dire qu'il faut prendre au sérieux l'hypothèse que notre cerveau ne s'arrête pas à la surface des choses, même dans ce domaine des graphiques. Analyser un graphique, ça n'est pas comme reconnaître un visage. C'est beaucoup plus abstrait que reconnaître un visage. C'est remonter à des paramètres extrêmement abstraits, des choix mathématiques qui ont été faits pour visualiser tel ou tel ensemble de données. Bien, alors j'aime autant vous dire que cette théorie n'est pas du tout testée, hein. C'est vraiment une hypothèse que je vous propose, je crois qu'on a une bonne dizaine d'années de travail devant nous pour mettre tout ça à l'épreuve. Je voudrais juste vous présenter quelques éléments de données qui suggèrent que le sujet ne s'arrête pas juste à analyser la tendance linéaire d'un graphe, qu'on est capable de faire des choses bien plus subtiles que ça. Et je vais vous présenter deux éléments qui suggèrent une sorte de grammaire des graphiques. Le premier, c'est l'analyse des outliers, des points qui ne collent pas à la courbe. Je reviens peut-être un tout petit peu en arrière, mais donc dans le graphique initial, voilà, vous étiez capable de voir qu'il y a des points spéciaux qui sortent de la courbe, et donc vous ne vous arrêtez pas à une analyse superficielle qui dirait, voilà, c'est une régression linéaire. Et deuxièmement, vous avez une grammaire de la courbe qui vous permet de dire, il y a des formes quadratiques, il y en a plusieurs, est-ce qu'on peut analyser ce qui se passe à ce niveau-là en sciences cognitives? Alors, première étape, donc, les outliers. Ce graphe sympathique nous rappelle que parfois les données collent bien avec la théorie, puis parfois il y a des points de données qui ne collent pas avec la théorie et qu'on appelle en anglais des outliers, c'est-à-dire des points qui ne sont pas sur la courbe, des points anormaux. Et il faut absolument être capable de les détecter, sinon ça affecte tout le processus de traitement des données. Donc les statisticiens ont inventé ce qu'on appelle la régression robuste, mais personne ne sait si les humains sont capables de faire une régression robuste. Alors on s'est posé la question, donc avec Lorenzo Siccian, est-ce que les humains sont capables de faire une régression robuste qui ne tient pas compte des outliers? Est-ce que ça dépend de leur attention? Est-ce qu'il y a un côté sériel dans ce traitement de l'information maintenant? Est-ce que ça dépend de la distance et du nombre des outliers? Et puis, quel est le mécanisme qui nous permet de dire qu'un point est anormal par rapport à une courbe de données? Et enfin, et c'est un point intéressant, même si on détecte ces fameux points anormaux, est-ce qu'on n'est pas quand même influencé par leur présence, même si on sait qu'il ne faudrait pas les prendre en compte dans la courbe? Alors, on a posé toutes ces questions dans une expérience de psychologie cognitive, c'est la suite des travaux précédents. On a toujours un graphe, il faut toujours juger s'il monte ou s'il descend. C'est un graphe globalement linéaire, simplement on va y ajouter quelques points parfois, entre 0 et 4 points de données qui sont anormaux, et on va voir si les sujets sont capables d'analyser cette scène et de les exclure. Voilà. Donc on a procédé comme ça, on a donné aux données principales, il y avait toujours 18 points sur l'écran, on a donné aux données principales une certaine pente, et c'est ça qu'il fallait juger, mais il y avait entre 0 et 4 points anormaux qui étaient gérés par une autre droite de données, qui pouvait avoir une autre pente. Et on a fait varier la différence des pentes, ce qui permet de faire varier la difficulté de la tâche. Parfois c'est très facile, comme ici, la pente est complètement différente, donc ces points-là viennent d'une droite et ces points-là viennent d'une autre droite, et vous voyez que si on vous dit de juger la direction principale, vous pouvez négliger ces points-là. Alors, le point crucial, c'est qu'on a fait varier les attentes des sujets. Dans l'expérience 1, on n'a rien dit au sujet. On a juste voulu voir la perception spontanée, est-ce que vous faites avoir ou pas par ce genre de points de données. Dans l'expérience 2, on leur a dit, c'est important de faire attention aux outliers, il peut y en avoir, essayez de les ignorer, essayez de juger la tendance alors qu'il y a certains points anormaux qu'il faut essayer d'exclure. Puis dans l'expérience 3, on a complètement changé la tâche, on leur a demandé de dire explicitement s'il y avait ou pas des points anormaux. Donc vous voyez ici ce que font les sujets. Ce qui est nouveau aussi, c'est que dans l'expérience 1 et 2, à chaque essai, ils font à la fois le jugement croissant-décroissant et l'ajustement des lignes, alors que dans l'expérience précédente, on l'avait fait dans des expériences séparées. Donc ils nous disent deux choses. Est-ce que je pense que ça monte et quelle est la pente que je crois que les données ont? Et puis dans l'expérience 3, avant de faire le jugement de la pente des données, ils nous disent « Attention, il y a, je pense, des données qui sont anormales, je voudrais les exclure ». Donc ils disent absent ou présent. D'accord, donc ça c'est le dessin expérimental. Je vais rentrer un tout petit peu dans le détail, mais vous inquiétez pas, c'est pas trop compliqué. Puis c'est pas mal parce que finalement là vous avez des graphes de données et on va regarder comment vous les analysez en temps réel et quel genre de grammaire finalement vous imposez à ces données. Alors allons-y doucement, vous voyez qu'il y a plusieurs sortes de graphes ici. On va se concentrer sur ceux du haut qui sont le taux d'erreur. D'accord. Taux d'erreur des sujets sur la pente, ils doivent dire si ça croît ou si ça décroît, ce jugement binaire, ça monte ou ça descend, et ils se trompent parfois par rapport à la pente qui est imposée aux données. Bon, ils se trompent de plus en plus en fonction de l'axe des X ici, qui est le nombre de points anormaux qu'on a rajoutés aux données. Donc ça, c'est logique. Hein. Plus il y a de données anormales, plus ça les trompe dans leur jugement principal. Et si on regarde maintenant le graphe d'en bas, ils sont également de plus en plus lents. Donc il y a un ralentissement qui est lié au fait qu'il y a des points anormaux, même dans l'expérience 1 et aussi dans l'expérience 2 ici. Donc les sujets spontanément détectent qu'il y a des choses anormales et ça ralentit leur décision. Alors après, ce qui est intéressant, c'est que les sujets sont également influencés par la distance des points de données. Si les points sont très distants, ils font plus d'erreurs et ils sont aussi plus ralentis. Donc il y a quelque chose de plus difficile quelque part lorsque il y a beaucoup d'outliers, de points anormaux qui troublent la perception. Voilà. Ils sont aussi ralentis lorsque la tendance principale est moins importante. Donc ça, c'est ce paramètre qui est ici, maintenant que je vous explique. C'est la pente principale. Si la pente principale est très raide, donc il y a une tendance très nette dans les données principales, c'est plus facile de ne pas se laisser influencer par des outliers. Mais si la tendance principale est assez faible, donc la tâche est plus difficile, vous voyez qu'il y a plus d'erreurs et les temps de réaction sont plus lents, eh bien, c'est là qu'on va commencer à se faire avoir par ces points de données anormaux. D'accord. Alors, deuxième partie de l'expérience, le jugement de la pente, on retrouve largement la même chose. Ici, on a indiqué les données sous forme de ce qu'on appelle response bias. Okay. Donc, response bias, c'est à quel point est-ce que la pente dévie de celle que les sujets devraient donner en théorie. D'accord. Donc, c'est un peu comme les erreurs. Voilà. Plus le biais augmente ici, plus ça veut dire que vous faites une erreur sur la perception de la pente. Et on retrouve le même phénomène qu'auparavant, c'est-à-dire que plus il y a de données anormales, de 1 à 4 ici, plus vous faites d'erreurs par rapport à la condition 0. On a soustrait la condition 0 ici. D'accord. Donc, aussi bien dans le jugement binaire, ça monte ou ça descend, que dans l'ajustement de la pente, on trouve la même chose. Vous êtes fortement influencé par les points de données anormaux, hein, et par leur distance à la ligne principale. Mais on voit ici quelque chose ici d'important, c'est l'influence de l'attention. Ici, vous avez les trois expériences, vous vous souvenez. Donc ici, on dit rien au sujet. Ici, on leur dit, attention, essayez de ne pas vous laisser influencer par ces points anormaux qui peuvent arriver, entre 0 et 4. Et ici, on leur dit, dites-nous s'il y a des points anormaux avant de donner votre réponse. Et vous voyez que, particulièrement dans cette expérience 3, le biais devient beaucoup moins fort. Donc on peut, si on est attentif, mais il faut être attentif, on peut rejeter des points anormaux. C'est faisable, mais il faut y faire spécifiquement attention, sinon on se fait avoir. Et alors, dans l'article, on a trouvé une fois de plus que toutes ces données peuvent s'expliquer très très bien par la fameuse régression de Deming ici. Donc les sujets se font influencer par ces points distants, ça fait pivoter en quelque sorte la courbe, ça fait pivoter la droite plutôt qu'ils essaient d'ajuster aux données, et c'est compatible avec le modèle de l'axe principal. Voilà. Alors, que dire encore ? La tâche de détection explicite. Est-ce que les sujets sont capables de faire une détection explicite des outliers ? Oui, ils sont capables. Et ils en sont d'autant plus capables qu'il y en a beaucoup. Donc, quand il y en a zéro, ils ont quand même une illusion qu'il y a parfois des données anormales. Mais quand il y a vraiment des données anormales, ils le détectent de plus en plus. Hein. Donc, ce n'est pas facile de détecter des données anormales parce qu'il peut y avoir des points qui semblent anormaux alors qu'ils sont strictement distribués selon le niveau de bruit habituel. Mais il y a quand même cette capacité, et surtout lorsque la distance est grande par rapport à la droite de départ, de détecter des points anormaux dans les données. Alors finalement, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui se passe ? On a réussi à modéliser ce que font les sujets dans cette situation. Et l'idée est extrêmement simple. Les sujets ajustent l'axe principal des données, mais ensuite, ils vont calculer pour chaque point, plus ou moins automatiquement, la distance avec l'axe principal. Et ils vont comparer cette distance avec le niveau de bruit, qui est le niveau de bruit habituel de l'expérience. Donc ça va résulter en ce qu'on appelle un score Z. Le Z, c'est simplement la distance à la droite divisée par le niveau de bruit. D'accord. Et le Z, c'est un critère statistique, c'est une variable normale qui vous dit, en particulier quand ça commence à approcher 2 ou 3, qu'il y a très peu de chances que ce point de données fasse partie de la distribution normale de départ. Donc les sujets vont se comporter comme des statisticiens. Ici, pour chaque point, ils vont dire quelle est la possibilité que ce point tombe sur la distribution normale des distances par rapport à la droite que je pense voir dans les données. Et on a vu que le rejet des données anormales. La performance, donc le pourcentage de cas où les sujets disent « oui, il y a, je pense, des données anormales, des points anormaux dans le graphe que vous venez de me présenter », varie de façon absolument systématique avec ce fameux Z-score qui nous dit « il y a des points anormaux ». D'accord. Alors c'est extrêmement intéressant parce que cette variable, là encore, explique toute la courbe. Quel que soit le nombre de points que nous avons injectés dans le graphe, ce qui compte, c'est est-ce qu'à la fin, il y a des points qui sont vraiment à grande distance. Il suffit de regarder le plus grand Z-score, et ça prédit très très bien le jugement du sujet. Je pense qu'il y a un point anormal dans les données. Et ça le prédit même quand il n'y en a pas. D'accord ? Nous n'avions pas mis de données anormales, mais par hasard, il y a des points qui sont un peu loin de la courbe, ça peut arriver dans des données avec une distribution normale, et bien les sujets jugent, dans ce cas-là, qu'il y avait un outlier, qu'il y avait une donnée anormale. D'accord ? Donc, on comprend très finement ce que font les sujets. Ils regardent à quel point les points individuels ont une certaine probabilité de se trouver dans la distribution normale autour de la droite qu'ils ont jugée. D'accord. Alors, je ne vais peut-être pas m'attarder trop sur ces détails, mais ça devient quand même intéressant. On peut donc remplacer le nombre d'outliers que nous avions injectés dans l'expérience par cette variable qui est le score Z, celui qui est réellement présent dans les données, à quel point il y a au moins un point qui dévie fortement de la courbe. Et là, on voit quelque chose d'intéressant, c'est que indépendamment de l'attention, vous vous souvenez qu'à travers les expériences, on fait plus ou moins attention au point déviant, on commence à se faire influencer. Le biais dans la perception de la pente augmente de façon systématique jusqu'à à peu près un Z-score de 2, c'est-à-dire une influence de ces points anormaux parce qu'on ne peut pas les détecter. Et puis à partir de Z-score d'à peu près 2,4 ici, les sujets commencent à détecter les points anormaux et là, si on leur a dit de les détecter, si on leur a dit de faire attention, ils cessent d'être beaucoup influencés par la présence de ces points. D'accord ? Donc ça veut dire, c'est seulement lorsque on arrive dans un espace de données où les points sont détectables qu'on peut ne pas être influencé ou pas trop influencé, mais qu'on est toujours un petit peu influencé hein, par ces points anormaux. Mais il faut pour cela faire l'effort de les rejeter. Et la dernière analyse que je vous présente, c'est le temps de réaction pour rejeter les données. Ça, c'est outlier detection, c'est le temps de réaction pour dire il y avait un outlier. C'est plus lent que le jugement de la tendance. Le jugement de la tendance est le plus rapide ici. Et c'est d'autant plus lent qu'on est autour de ce Z-score d'à peu près 2,4, qui est le moment difficile où je dois arriver à décider est-ce qu'il y a ou pas des outliers, des points anormaux. Donc, ce que ça veut dire, c'est que on n'est pas juste en train de faire une régression linéaire simple, on est capable d'éliminer des points qui se comportent de façon anormale, autrement dit, on est capable de hiérarchiser le graphe et de dire toute cette partie-là, c'est mes données, ce point-là, non, je vais essayer de l'exclure mentalement. Et on le fait avec cet algorithme précis de détection des distances par rapport à la tendance principale des données. Mais on n'est pas parfait et on est quand même influencé, on continue d'être influencé par le point anormal dans nos jugements des courbes. Voilà, voilà où on en est. Donc, cette idée d'un parsing au sens anglais du terme, c'est-à-dire d'une analyse grammaticale de la scène visuelle, a l'air de se produire de façon tout à fait minimale ici. On est capable d'analyser la scène de points. Normalement, on le traiterait comme un objet, mais là, on est capable de dire non, il y a plusieurs objets. Il y a un objet qui est la grande ellipse principale avec son axe principal, et puis il y a quelques points, 1, 2, 3, 4, qui sont anormaux et que je vais exclure, ou je vais essayer d'exclure, en tout cas, mentalement, de cette scène visuelle. C'est un premier exemple d'analyse grammaticale de la scène visuelle lorsqu'on perçoit des graphiques. Vu l'heure, je crois que je vais passer cette section qui est un peu technique. Peut-être certains d'entre vous s'y intéresseront. Je mettrai les diapositives sur le site du Collège de France. Mais une autre manière de poser cette question pour les gens qui sont statisticiens dans la salle, c'est de se demander quelle est la fonction de coût qu'on applique à la régression. En une seconde peut-être, la fonction de coût traditionnelle, c'est les moindres carrés. On essaye de minimiser le carré de la distance des points à la droite qu'on cherche à trouver. Mais ça n'est pas une régression robuste. Et pour faire une régression plus robuste, on peut choisir de minimiser la somme des valeurs absolues des distances à la droite. Et à ce moment-là, on obtient quelque chose de plus robuste qui est la médiane des données. C'est la médiane qui est la bonne solution pour cette distance qu'on appelle la norme L1 ici. Alors dans cet article, eh bien, je vous laisserai le découvrir sur les diapositives que je laisserai sur le site du collège, mais les auteurs essayent de deviner quelle est est la valeur de P, quelle est la norme que les sujets utilisent pour ajuster des données, pour trouver la tendance principale dans les données, soit la moyenne, soit l'axe qui distingue deux ensembles de données. Et ils trouvent, et c'est conforme à ce qu'on a trouvé avec les outliers, ils trouvent que les sujets font une sorte de régression robuste dans lequel la valeur de P, donc la valeur de P serait 2 si c'était les moindres carrés, hein, c'était un carré, mais ça n'est pas 2. C'est une valeur plus petite que 2 qui est plus proche de la médiane, qui correspond donc à une sorte de régression robuste qui est faite par les sujets. Ils sont capables d'exclure des points anormaux de cette manière. Et je laisserai à nouveau ces diapositives, mais un des points les plus intéressants, c'est lorsque les sujets essayent de séparer deux ensembles de points, eh bien ils ajustent la droite qui permet de séparer deux ensembles de points, un peu comme le fait l'algorithme de Support Vector Machine, SVM, la machine à support vecteur, qui sont les algorithmes utilisés en traitement des données, en intelligence artificielle si on veut, en analyse de données, pour séparer automatiquement les points. Donc on commence à voir que les humains font quelque chose de très sophistiqué. Ils ne se laissent pas avoir par des distributions qui ne sont pas gaussiennes. Ils sont capables d'ajuster la séparation entre des points de façon aussi fine qu'un algorithme d'intelligence artificielle. Bien. Alors, je terminerai ce cours donc, sur l'aspect grammatical des graphiques en parlant du style de fonction que nous sommes capables de percevoir. Depuis le départ, je vous parle de la situation la plus simple possible, celle qui est facile d'ailleurs d'un point de vue statistique, où il y a vraiment une théorie normative très claire, qui est la régression linéaire. On est capable de percevoir une droite dans les données. Mais ce n'est vraiment pas la situation générique. Beaucoup de données ne sont pas linéaires et la question se pose de savoir qu'est-ce qu'on est capable de percevoir. Alors on a étendu ces expériences pour essayer de voir quelle est la grammaire de fonction que les sujets sont capables de percevoir dans les données. Ici, si vous êtes sujet, vous voyez ces graphes. On ne vous a pas dit quelle est la collection de fonctions qu'on va utiliser, mais vous voyez tout de suite que ce ne serait pas approprié de dire la tendance est linéaire ici. Vous percevez immédiatement qu'il y a des fonctions non linéaires. Et ce que nous avions fait, c'est d'avoir des fonctions qui sont bilinéaires, avec une partie gauche suivant une certaine pente et une partie droite suivant une autre pente, avec un point d'inflexion qui n'est pas au même endroit, suivant les moments, une fonction qui peut être quadratique et des fonctions sinusoïdales ici. Et c'est pour ça qu'on avait inventé cette tâche d'ajustement de points, parce que là, évidemment, la pente, ça n'aurait pas de sens de demander la pente au sujet, hein, mais on peut toujours leur demander de placer le point pour que ce soit le plus compatible avec les données de gauche, pour que ce soit le plus plausible, étant donné les données de gauche. Voilà. Donc c'est ce que nous avons fait. Hein. On a présenté ces courbes bilinéaires, quadratiques, sinusoïdales et linéaires aussi à des sujets. On leur a demandé où est-ce que vous placeriez ce point. D'accord ? La question, c'est est-ce qu'ils arriveraient à percevoir de façon correcte ces courbes ? Et alors, il y avait une petite astuce. La dérivée à l'endroit où les données s'arrêtent, ici, est la même pour les courbes verticales. Donc si les sujets se contentaient d'extrapoler de façon linéaire, en se fondant sur le passé, eh bien, ils répondraient de façon identique dans toute cette situation. Bon, c'est très peu probable que ce soit le cas, et c'est effectivement pas ce qu'on a trouvé, mais ça permettait de rejeter un modèle très, très élémentaire ici. Donc en regardant ces graphes les uns après les autres, ce que vous voyez, c'est la distribution des réponses des sujets. On plaçait le point à deux endroits différents sur l'axe des X, un qui est assez proche des données et un qui était plus loin des données, qui nécessitait d'extrapoler. Et que les sujets sont très bons à extrapoler, et y compris pour des fonctions non linéaires ici. C'est un talent qu'on a. Et tous les sujets n'étaient pas non plus mathématiciens ici, hein. C'est simplement des adultes pris au hasard dans la population française. Vous voyez que, pour la courbe linéaire, c'est facile à comprendre. Les points sont presque exactement sur l'axe linéaire ici. On retrouve le biais de Deming, on ne le voit pas très très bien ici, je crois qu'on le voit un petit peu mieux. Voilà, pour les courbes qui sont bilinéaires, où il y a moins de données, vous voyez que les sujets auraient dû répondre à l'endroit où est le point rose ici, et leur distribution est légèrement déplacée vers le haut ou vers le bas. Ça, c'est le biais de Deming, donc on retrouve comme auparavant. Mais donc, ils détectent qu'il y a une tendance linéaire, y compris uniquement dans les données récentes. Ils ne se font pas avoir par les données précédentes, ici. Plus ces données récentes sont faibles en nombre, plus leur bruit est important. Vous voyez que le niveau de bruit, ici, augmente, plus on s'éloigne de la courbe de départ, c'est normal, plus on extrapole, plus il y a du bruit dans la capacité des sujets de répondre correctement, mais c'est quand même centré au bon endroit, presque centré au bon endroit, avec juste le biais de Deming. Et puis alors si vous regardez, peut-être on regarde les sinusoïdes en premier, vous voyez que la performance est complètement différente pour les sinusoïdes. Les sujets sont capables de dire, ça va se poursuivre sur la droite, et donc je vais répondre ici, mais ça va aller dans l'autre sens à la période suivante, et je suis capable de déplacer la distribution des réponses de façon adéquate. Et alors, la seule chose un peu moins bonne en performance, c'est la quadratique, ici. Vous voyez que les sujets auraient dû répondre sur la courbe en pointillé. Une partie de leur réponse est effectivement au bon endroit, mais une partie de leur réponse reste compatible avec une droite linéaire, ici. Un peu comme la situation bilinéaire. Alors, toutes ces données, qui sont très quantitatives, très belles, s'expliquent par un modèle très simple. Un modèle d'observateur optimal, comme on aime bien le faire en sciences cognitives, un modèle bayésien, et je trouve que ça donne une bonne idée de ce qu'on fait probablement dans cette situation. L'hypothèse, c'est qu'on a une sorte de catalogue de fonctions. Nous avons un catalogue de fonctions possibles, la linéaire est la plus simple, avec un seul paramètre ou deux paramètres, la pente et l'origine, l'ordonnée à l'origine, mais on a aussi un catalogue de fonctions oscillantes, catalogue de fonctions quadratiques, etc. Et ce catalogue reste, les limites restent encore à définir, mais il y a au moins les fonctions que je vous ai montrées là. Autrement dit, on est capable, avec cette espèce de grammaire interne, de générer l'hypothèse que les données sont bilinéaires, même si on les voit pour la première fois. D'accord ? Et donc, le modèle qu'on a mis en place, c'est un modèle qui choisit de façon optimale, parmi le catalogue de fonctions, celle qui est la plus compatible avec les données. Donc, on va tester, par exemple, l'hypothèse que c'est une droite qui passe à travers les données. Peut-être, pour le rendre concret, je reviens un tout petit peu en arrière. Voilà, imaginez que vous ayez ce graphe-là, sous les yeux, et votre catalogue de fonctions va être appliqué à ces données. Vous allez faire passer une droite à travers ces données, et vous allez avoir une certaine anomalie, disons. Ça ne marche pas très bien, les données conservent une grande distance par rapport à la droite optimale qui pourrait passer par ces points. Vous allez changer votre catalogue de fonctions et vous allez dire, si c'était bilinéaire, quel serait le meilleur ajustement des données? Et là, vous allez voir qu'il y a un ajustement des données beaucoup plus important. Donc, dans le modèle bayésien, on va essentiellement calculer la probabilité a posteriori de chacune des fonctions possibles, étant donné les données. D'accord. Alors quand on fait ce modèle bayésien, ça marche vraiment pas mal du tout. Les fonctions linéaires sont retrouvées par le sujet, donc le modèle trouve que quand c'est linéaire, je conclus que c'est linéaire, quand c'est bilinéaire, je conclus que c'est bilinéaire, je retrouve aussi l'augmentation du bruit. Vous voyez, lorsque je m'éloigne des données, le modèle reproduit cette augmentation du bruit dans les réponses, parce que c'est plus difficile d'extrapoler quand on est loin des données. La quadratique suit la fonction quadratique, mais partiellement, je vais y revenir dans un instant, et puis la sinusoïde, le modèle est capable de détecter qu'il y a une sinusoïde dans les données. Lorsqu'on utilise la fonction Deming, on rencontre des asymétries, mieux qu'avec les moindres carrés ordinaires, comme d'habitude. Et puis, il y a cette histoire de la fonction quadratique. Il est possible qu'une fraction des sujets n'ait pas pensé à la fonction quadratique, ou plutôt qu'ils aient confondu la fonction quadratique avec les fonctions bilinéaires. Ce n'était pas facile, dans les données, de voir la différence entre les deux. Et donc, lorsque les sujets n'ont pas l'hypothèse quadratique, enfin, plutôt que le modèle ici n'a pas l'hypothèse quadratique, vous voyez qu'il se comporte de façon essentiellement linéaire ou constante, il est possible qu'on ait une mixture de sujets qui aient répondu aux données quadratiques. Voilà, donc, toujours sans rentrer trop dans le détail, parce que je pense que ça n'intéresse que les spécialistes, mais retenez l'idée qu'on a peut-être dans notre tête une sorte de catalogue de profils de données possibles. Et sans doute, quand on est éduqué aux mathématiques, on augmente ce catalogue devient de plus en plus raffiné. Alors la dernière chose dont je voudrais vous parler, c'est les exponentielles. Est-ce que ce catalogue comprend des fonctions exponentielles? On a fait tout ce travail avec Lorenzo Ciccione pendant le Covid, et vous vous souvenez peut-être que c'était une polémique. Angela Merkel, physicienne, avait expliqué très posément ce que c'est qu'une fonction exponentielle, parce qu'on avait l'impression que les gens ne comprenaient pas. J'ai retrouvé, grâce à Lorenzo, ce graphique qui était assez amusant, vous vous souvenez peut-être, où les scientifiques voient que c'est déjà exponentiel au début et que ça continue d'être exponentiel. Moi, je me souviens très bien, quand on voyait le début de l'épidémie de Covid, nous, en tant que scientifiques, on était déjà alertés sur le fait que c'était exponentiel et que c'était extrêmement dangereux. C'est-à-dire que ça croît de façon multiplicative à travers le temps. Et pour peut-être d'autres personnes moins scientifiques, en fait, ces données sont sous contrôle. Ah, ça y est, c'est exponentiel. Non, c'est pas comme ça. L'exponentielle, elle est tout au long de la courbe. Elle croît de façon multiplicative. Alors, à nouveau, sans trop rentrer dans le détail, les diapositives seront là pour ceux qui sont des spécialistes, mais on a posé la question, est-ce que les sujets perçoivent des exponentielles, et si oui ou non, est-ce qu'on peut les aider à percevoir des exponentielles? Donc vous avez ici des graphes de données dont certains sont linéaires, comme ici, et puis certains sont exponentiels, et on le voit sur une échelle linéaire, mais on peut aussi aider les sujets en présentant les mêmes données sur une échelle logarithmique. À ce moment-là, la courbe à l'air linéaire, et tout devient plus facile, d'accord? Et puis, on s'est demandé si les sujets seraient aidés par le fait de pointer sur le graphe, en disant « c'est là que vont les données », ou bien simplement en donnant un nombre, toujours en ajustant. Donc, c'est toujours notre technique hein, d'ajuster un point, ici, vous voyez, on va l'ajuster, mais ce point, on va l'ajuster soit en donnant le nombre correspondant sur l'échelle, soit en l'ajustant, en pointant sur l'écran. On a donc fait varier pas mal de paramètres. Est-ce que la fonction est linéaire ou exponentielle? Et tu ne le savais pas, à chaque essai, ça pouvait être différent. Hein. La modalité de réponse, pointer ou essayer de répondre avec un nombre sur l'axe des Y qui était donné. L'échelle sur l'axe des Y pouvait être linéaire ou logarithmique. Et le niveau de bruit des données pouvait varier. Ça, c'est très important. Ici, vous avez essentiellement presque pas de bruit du tout, ici, mais on pouvait avoir nettement plus de bruit. Alors, je crois que je vais sauter un petit peu parce qu'il est tard, mais ce qu'on a trouvé, on a trouvé que les sujets avaient effectivement une mauvaise perception des exponentielles lorsqu'elles sont bruitées. C'est difficile, et vous voyez que cette courbe ici qui dévie zéro, ça veut dire que les sujets sous-estiment les exponentielles. C'est un problème. On n'est pas très bon à juger de la présence d'exponentielles et on sous-estime la vitesse avec laquelle une épidémie, par exemple, se propage, surtout lorsqu'il y a un peu de bruit dans les données. Par contre, ce qu'on a trouvé qui est intéressant, c'est que lorsqu'il n'y a pas de bruit dans les données, lorsque la courbe est présentée au sujet, ils sont capables de l'extrapoler correctement. Et dans le contexte de cette expérience, ils le faisaient particulièrement bien, donc en l'absence de bruit, y compris avec des nombres qui étaient présentés sur l'axe des Y. Donc, évidemment, avec des nombres, c'est compliqué parce qu'ils discrétisent. Donc, ils ont tendance à dire 750 ou 700, mais pas 741, par exemple. Donc, ils sont moins précis lorsqu'ils rapportent avec des nombres que lorsqu'ils rapportent en pointant. Mais la découverte principale, c'est que le biais n'est pas omniprésent. Il est présent lorsque les données sont bruitées, beaucoup plus que lorsque les données ne sont pas bruitées. Donc vous voyez, on peut percevoir des exponentielles, mais il vaudrait mieux donner la courbe exacte que la courbe avec le bruit des données. Et puis alors on a trouvé cette chose qui est quand même assez remarquable, c'est qu'une fois de plus, ça dépend de l'éducation. Vous voyez ici la connaissance mathématique des sujets rapportée par eux-mêmes, et aussi le domaine dans lequel ils travaillent, notamment le domaine de la santé. C'était en plein une épidémie de Covid ici. Hein, et vous avez des biais qui sont extrêmement variables suivant les domaines sur lesquels travaillent les sujets. Alors on est arrivé à plusieurs recommandations sur la manière de présenter ces courbes. D'abord, donc, améliorer l'éducation. L'éducation aux exponentielles permet de réduire le biais des sujets. Vous voyez que le biais se rapproche de zéro, plus l'éducation des sujets est importante ici. Et c'est la première chose qu'on pourrait recommander. On peut s'éduquer à percevoir des courbes et à mieux percevoir leur croissance. Même si on a un catalogue standardisé, ce catalogue peut être augmenté ou raffiné par l'éducation. Deuxièmement, il faut essayer de montrer des courbes sans bruit. Lorsqu'il y a du bruit, on sous-estime les exponentielles. Peut-être parce que dans notre catalogue, il y a la fonction linéaire, il y a la fonction quadratique, et toutes ces courbes sous-estiment la croissance exponentielle. Donc, la bonne manière de, si on veut faire comprendre au public la difficulté que présente une courbe exponentielle dans une épidémie, par exemple, ou peut-être aussi dans certaines situations de changement climatique, hein, où il y a une urgence, eh bien, il vaut mieux présenter la courbe théorique, peut-être au-dessus des données. D'accord. Mais c'est, si on monte la courbe théorique, le meilleur fit, et qu'on montre que le meilleur fit, c'est une courbe exponentielle, eh bien on va aider le public à mieux comprendre la vitesse de la progression de ces données. Alors que quand il y a du bruit, c'est plus difficile à percevoir. Voilà. Par ailleurs, c'est mieux de faire pointer que de faire des jugements numériques. Donc on peut imaginer des interfaces où vous demandez au sujet, devinez où ça va aller, et quand on pointe, on a des meilleures réponses que lorsqu'on donne des jugements numériques. Et enfin, dernier résultat de cette expérience, c'est que nous ne sommes pas mauvais du tout avec des échelles logarithmiques. Je vous en ai déjà parlé au cours numéro 3. Une échelle logarithmique, nous la comprenons, et comme évidemment l'échelle logarithmique transforme l'exponentielle en une droite, c'est beaucoup plus facile de prédire où vont aller les données dans cette situation. Donc ça peut être aussi une manière habile de présenter les données. Mais évidemment, il faut attirer l'attention des personnes sur l'axe des Y à ce moment-là, leur faire comprendre qu'on va passer de 100 à 1000 et de 1000 à 10 000 très rapidement, en un temps constant essentiellement. Mais si on attire leur attention sur le fait que l'échelle est logarithmique, ils sont capables d'extrapoler une exponentielle. Donc c'est un travail qui, vous voyez, il y a des conséquences concrètes aussi de ce travail sur les graphiques. Hein. C'est pas facile de faire comprendre au public comment se comportent les courbes, et ce sera le sujet du cours de la semaine prochaine. On parlera de l'éducation aux graphiques qui peut jouer un rôle important pour éviter les biais dans la perception des courbes, comme on le voit ici. Alors, je tire juste quelques conclusions du cours d'aujourd'hui. Hein. D'abord, pour vous dire qu'on est vraiment au balbutiement de cette notion de grammaire des graphiques. Il y a un modèle informatique, ggplot2, mais il n'y a pas un modèle cognitif de la manière dont nous percevons les graphiques. Voilà. Mais on peut au moins dire une chose, c'est qu'on ne perçoit pas juste que la régression linéaire, certainement pas, on perçoit beaucoup plus que ça. On est capable de percevoir la force de la corrélation, la force des régressions, on est capable de rejeter des données anormales, et on est capable de comprendre dans une grande mesure des courbes non linéaires, comme des quadratiques ou des exponentielles ou des sinusoïdes. Voilà. Alors, on en parlera la semaine prochaine, mais je vous montrerai que ce catalogue est déjà, dans une partie, disponible chez l'enfant. Donc là encore, hein, on ne part pas de zéro. On a cette perception des formes des objets et on recycle, et ça veut dire qu'on perçoit des courbes qui ne sont pas trivialement juste linéaires. On est capable de percevoir des formes beaucoup plus complexes dès l'enfance. Mais évidemment, on parlera aussi la semaine prochaine de l'aspect éducation. Comment est-ce qu'on peut faire pour mieux éduquer les enfants français en particulier à cette science des graphiques? On verra la semaine prochaine que les données de l'enquête TIMSS suggère quand même que nous avons de gros problèmes hein, d'éducation mathématique en France, et notamment dans ce domaine des graphiques, et on essaiera de proposer quelques solutions. Voilà, donc je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Merci.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.